Roc. Et la construction solide, c'est quoi? Enfin, le bâtiment qui va résister pendant les tempêtes, pendant les le mauvais temps, etc. C'est le bâtiment, c'est la construction qui est établie sur les rocs, sur quelque chose de solide. Pour nous, spirituellement parlant, si nous construisons notre foi spirituelle sur Jésus, enfin sur les rocs égale Jésus, notre vie spirituelle sera solide. On sera chrétien durable. Et puis il y aura un moment où Jésus nous dira « Ah, salut mon ami, viens dans l'éternité, pour l'éternité, tu vivras l'éternité avec moi, puisque tu as été fidèle pendant toute ta vie. » Et c'est ça qui compte. Voilà, nous avons une destination, une direction. Donc on a vu ça ensemble. Et ce matin, j'aimerais vous partager donc aussi la parole de Dieu. Donc, mon sujet, l'efficacité d'une vie construite sur les rocs, sur Jésus. D'accord? L'efficacité. À quel moment nous sommes efficaces? Bien sûr, lorsque nous avons construit notre vie sur la personne de Jésus. J'ai assisté hier à matin à une inauguration de bâtiment. À Lille, au centre de Lille, pas loin d'ici. Et voilà, dans des moments comme ça, nous nous retrouvons, 90% des pasteurs de la région sont là. On se regarde, on s'observe, on se serre dans les bras, peu importe. Voilà, il y a beaucoup de monde. Et c'est toujours des moments importants, découvrir les uns et les autres. Et puis j'ai rencontré quelqu'un que j'ai pas vu pendant 38 ans. Et je le regarde et j'ai dit, je dois connaître cet homme-là, je l'ai vu quelque part. Mais voilà, je ne voyais pas qui c'est. Et puis ensuite, voilà, la réunion se déroulait, puis il y avait des intervenants. Et puis on a dit, voilà, c'est une église depuis tant d'années. Et puis ensuite, on a parlé de certaines choses et puis on en comprenait entre deux phrases que c'est une église qui passait par plusieurs tempêtes, de difficultés incroyables. Et puis à un moment, donc, ce monsieur que j'avais l'impression que je l'ai vu quelque part, et il dit, heureusement qu'il y avait quelques personnes fidèles, pendant toutes ces années, à cause de la fidélité de certaines personnes, voilà aujourd'hui, nous avons une inauguration, nous avons un bâtiment, nous avons un outil, hein, Brigitte était là aussi, et puis on a dit, voilà, c'est un outil à plusieurs reprises pour, finalement, que ce bâtiment serve. Voilà ce que notre bâtiment sert, accueillir les gens, faire des cultes, faire des agapes, faire différentes activités qui contribuent au culte, finalement, à la vie de culte. Et puis ensuite, ce monsieur par qui j'étais interpellé, il a parlé aussi, il a dit, ben voilà, ça fait 38 ans que nous, ma femme, moi-même, il y avait encore quelqu'un, nous étions fondateurs de cette église. Ah ben voilà. Ça fait 38 ans que j'ai vu ce monsieur-là. On s'est parlé ensemble parce qu'on se connaissait à cette inauguration ensemble. Et je lui ai dit, écoute, ben voilà, on ne se connaît pas. Et finalement, enfin, on ne se reconnaît pas, mais on était jeunes. 38 ans, j'étais un petit peu plus jeune, hein. J'avais encore pas mal de cheveux à l'époque. Et voilà, donc, c'était une rencontre remarquable. Et c'est lui qui a dit, heureusement qu'il y avait quelques personnes fidèles. Et qu'au travers de toutes ces tempêtes, voilà, certaines tempêtes, je les connais, voilà, tout ça, Voilà, il y avait des gens qui résistaient, qui étaient fidèles. Et puis là, à la fin, bah, ça paye. Quelle belle œuvre, quel beau bâtiment qui pourra servir la ville de Lille. C'est boulevard, la rue de d'Arras. Nos amis, l'église baptiste de la réconciliation, le pasteur Christian Delaroque. Voilà, c'est pas loin d'ici. Et c'était beau de voir. Donc vous voyez, construire une construction qui va durer 38 ans, 50 ans, 100 ans quelquefois. Bon, ils ont commencé avant, mais la première salle était donc lancée il y a 38 ans. Quelquefois, je suis dans des réunions de inauguration, quelquefois on nous dit, ben, voilà, ça fait 100 ans, 100 ans quelqu'un est venu ici à évangéliser, et 100 ans après, l'Église existe toujours, toujours, toujours. Pourquoi ? Il y avait les tempêtes, il y avait les moments difficiles, il y avait la maladie. Alors pourquoi ? Parce que les hommes et les femmes ont construit cette œuvre sur le roc, sur la personne de Jésus. Et même s'il y avait des moments difficiles, mais la parole de Dieu nous dit, si Dieu est avec nous, ah ben, qui sera contre nous? Ça résiste, on résiste, on est là, on est là, on ne lâche pas. Mais les difficultés sont toujours là. Si quelqu'un parmi vous connaissez la formule, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir des difficultés, bah, je suis enseignable. Mais on est tous imparfaits et nous sommes tous... voilà, Dieu nous fait passer par des moments difficiles. On va lire la parole de Dieu, Actes des Apôtres, chapitre 19, et le premier 11 versets. Et je vais changer un peu la prédication aujourd'hui, vous allez voir. On va faire différemment que d'habitude. On va s'arrêter entre deux. Et on va aussi prier pendant la prédication pour certains sujets. Donc vous allez voir, il y aura plusieurs. On va retirer un enseignement et plusieurs sujets importants qui nous concernent. Alors, voici donc les Actes des Apôtres, chapitre 19. De ça, hein, et le premier 19 versets, donc de 1 à 19. C'est bon? Alors, les Actes des Apôtres, chapitre 19, pas le premier. Le chapitre 19, c'est le premier verset, le 19. Les Actes des Apôtres, je répète, 19. C'est bon, merci Gaël. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Voilà, Paul arrive à Éphèse. N'oubliez pas. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit. Donc il arrive à Éphèse, Paul prêche l'évangile partout, pour ceux qui savent, pour ceux qui ne savent pas, Paul, c'est un homme de Dieu, un apôtre, quelqu'un qui était envoyé, quelqu'un qui prêchait l'évangile. D'accord ? Il arrive à Éphèse. Et là, il rencontre quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé ? Et ils répondirent, du baptême de Jean, Jean-Baptiste. On va plus loin. Jean-Baptiste, c'est celui qui est venu avant Jésus pour prévenir la population que quelqu'un plus fort que lui viendra. Donc il est venu pour annoncer la venue de Jésus. Lorsque Paul... Alors, on a coupé un peu, non? Verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, vous voyez, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. Donc qui? Jésus, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc ils ne connaissaient pas, ils connaissaient juste Jean, l'enseignement de Jean. Voilà, Jean enseignait que Jésus devait venir, mais il fallait accepter Jésus pour être sauvé. Donc quelque part, Paul arrive là et découvre toute une situation. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vient sur eux et ils parlaient aux langues et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 personnes, 12 hommes. D'accord ? Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Donc réfléchissez là aussi, Paul qui prêche Christ, il rentre dans la synagogue. Essayez de comprendre que ce n'est pas facile. Il rentre dans la synagogue, là où on n'accepte pas du tout que Jésus était sauveur, etc., que c'est lui qui est venu pour sauver l'humanité. Il parla librement, donc regardez, il parla librement. Il y avait une porte qui s'est ouverte, il y avait une stratégie d'action pour Paul, là. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader, donc regardez des expressions fortes, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient, persuader, convaincre, etc., etc., dans d'autres traductions. Mais comme quelques-uns restaient endurcis, incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, vous voyez, une opposition, il se retira de séparer les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'en impliquant sur les malades de linge ou de mouchoir, qui avaient touché son corps, regardez, c'est fort, hein, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Voilà. Donc, Paul arrive à Éphèse et la première chose, il découvre quoi? Il y avait un manquement, on est d'accord? Il pose la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ah non, on n'a même pas entendu parler. Donc, voilà, ensuite, plus tard, vous avez compris, Paul, certainement, il y a eu un bon moment de discussion, de partage, etc. Il a imposé les mains, donc, sur ses 12 disciples, voilà, qui ont découvert quelque chose de plus profond. Donc, ce n'était pas changer la religion, changer une façon de voir les choses, c'est tout simplement approfondir. Il y avait un manquement. Il manquait quelque chose. Et puis ensuite, Paul impose les mains. Avant, ils étaient baptisés, donc ils sont passés par les eaux du baptême, d'accord? Au nom de Jésus. Et puis ensuite, il a prié pour eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit quelque chose de surnaturel, le baptême du Saint-Esprit, on appelle ça. Pourquoi? Parce qu'il parlait donc dans d'autres langues et prophétisait. Ce n'est pas mon sujet, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre qu'il y avait ici un manquement, d'accord? Un manquement. Aujourd'hui, à notre époque, même ce matin, vous pouvez juste faire un peu d'analyse autour de toi. Tu peux faire une analyse. Seigneur, qu'est-ce qui me manque encore? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Je ne pense pas. Parce que vous êtes dans une église où voilà, ça chauffe. Le Saint-Esprit, pour nous, c'est quelque chose de normal, naturel. Tout à fait naturellement. Nous vivons le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Prier aux langues, prophétiser, on demande même quelquefois qui a reçu quelque chose de la part de Dieu. Ce ne sont pas les sentiments, ce ne sont pas quelque chose que nous avons entendu dans la semaine, mais c'est quelque chose que nous recevons par le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est aussi simple. Mais on peut avoir peut-être un manquement quelque part au niveau de notre foi. Est-ce que ce matin, ta foi est une foi réelle, profonde? Est-ce que ta foi est vraiment nourrie par la parole de Dieu pendant la semaine? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu n'est pas nourrie lorsque tu regardes et puis tu écoutes n'importe quoi. La foi est nourrie, consolidée par la parole de Dieu. Amen. Voilà. Donc, c'est possible que ta foi n'est pas vraiment en point. Il y a un manquement. Peut-être au niveau de la sainteté. Vous comprenez? Personne ne verra Dieu sans être saint. Vous connaissez ce verset? Oh là là, ça c'est purifié, c'est justifié tout simplement par Dieu lui-même. D'accord? C'est lui qui nous rend saints. Quelquefois, je parle avec des uns et des autres, et souvent aussi avant les baptêmes, j'essaye d'aider tout le monde à vos baptêmes, de mettre leur vie en règle. Et souvent, je dis, si je te baptise et puis tu continues ta vie dans le péché, ça va te changer, ça va changer quoi? Donc, on discute et puis je me souviens, il y avait un moment où j'ai parlé avec un jeune homme qui voulait prendre son baptême et je lui ai dit, tu es fiancé? Il dit, non, mais j'ai une copine. Et puis il dit, je lui ai dit, tous les soirs tu es avec ta copine dans le lit et tu vas te prendre ton baptême. Alors, vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez, on vit dans le péché, alors qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, sépare-toi de l'impureté, sépare-toi du péché, règle ta vie devant Dieu, ça veut dire ça. Et la sainteté, c'est ça, voilà. Ou je parle avec quelqu'un qui me dit, oh là là, je ne supporte pas ma belle-mère. Et moi, j'ai dit, même si ta belle-mère n'est pas belle, n'est pas gentille, mais tu dois l'aimer. Vous comprenez tout ça, notre esprit, l'intelligence, tout est pollué à la haine et à la rage. Contre la belle-mère, contre la belle-fille, contre le voisin, contre le voisin qui nous fait un peu de musique dans un appartement un peu trop fort, on n'arrive pas à dormir. Et tout ça, il faut le gérer, vous comprenez? Donc très vite, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a tellement de manquements autour de nous, aussi dans n'importe quel domaine. Alors au lieu d'attendre l'éternité, qu'est-ce qu'on va faire? On va régler les manquements. On va prier ce matin avant d'aller plus loin, parce qu'après, il y a d'autres sujets. On va s'élever ensemble, essayer de faire le tour autour de toi, et puis tu dois régler certaines situations. Voilà, c'est comme ça que j'ai été conduit là pendant la louange. Le Seigneur me montre le culte. Et le Seigneur m'a montré qu'il fallait qu'on règle certaines situations. Voilà, peut-être dans un don, au niveau de la foi, au niveau de la consécration, au niveau de la sainteté, au niveau d'être positif, on est souvent négatif. voilà, tout ça, on a des conflits avec les uns les autres. Voilà, il y a des manquements peut-être quelque part. Moi, je ne vous connais pas, vous connaissez pas ce que je vis moi aussi. Alors, on va demander la bénédiction de Dieu. On va demander, Seigneur, aide-moi combler ce manque dans ce domaine, voilà, pour que je sois libre. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Alléluia, c'est important, hein. Reste. Voilà, je vais demander à Chanel peut-être de prier pour nous. Priez pour nous, pour proclamer les choses, de nous interpeller. On va chercher la grâce de Dieu pour dire, Seigneur, ce manquement-là, on va éliminer, j'élimine. Peut-être ta difficulté de venir au culte à l'heure, voilà, tu viens tout le temps, c'est quelque chose qui se passe. Voilà, il faut mieux venir en retard que rien du tout, on est d'accord. Hein. Je ne juge personne, vous comprenez? Mais dans des petites choses, quelquefois, il y a des choses qui nous bloquent, voilà, au niveau de la bénédiction. Il y a des manquements, hein, il y avait des manquements. On va régler tout ça ce matin, au nom de Jésus.
Oui, Seigneur, merci, parce que toi, tu connais nos cœurs, Seigneur. C'est toi qui nous as fait et c'est toi qui nous a amenés là ce matin. C'est toi qui nous a amenés à écouter ce message ce matin et c'est toi qui nous dit, venez ce matin vous purifier devant moi, parce que, eh bien, c'est comme ça qu'on va grandir avec toi. Alors, Seigneur, on veut vraiment ce matin prendre la victoire et mettre vraiment à tes pieds toutes ces choses qui nous empêchent d'avoir la foi. Toutes ces choses, ces haines, ces colères, ces rébellions, ces habitudes, ces toutes ces idolâtres dans nos vies qui nous empêchent, Seigneur, d'aller plus loin avec toi, qui nous empêchent de croire encore plus, Seigneur, en toi et d'être pur devant toi. Et on veut vraiment, Seigneur, regarder le péché qui sont dans nos vies, Seigneur, et les prendre et dire, bah, j'en veux plus et je m'en débarrasse, Seigneur, là, ce matin. Alors nous prenons la victoire, Seigneur, des prières d'autorité pour dire, Seigneur, nous n'en voulons plus, nous les refusons, nous sommes libres parce que tu es venu libérer nos chaînes, Seigneur. Tu n'es pas venu faire de nous des cap Seigneur. Alors nous proclamons la victoire, nous la prenons, Seigneur, nous la saisissons, parce que tu es un Dieu qui libère. C'est pas sous condition, Seigneur, non, nous le proclamons. Alors, Seigneur, viens libérer toutes les personnes ici qui ont le cœur lourd, qui savent qu'elles doivent avancer, qu'elles doivent vraiment, Seigneur, se libérer de certaines choses, mais c'est plus fort qu'elles. Mais rien n'est trop fort pour toi, oui. Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Toi, tu peux toutes choses. Tu peux déplacer les montagnes, tu peux guérir les malades, comme tu peux donner de l'argent, comme tu peux donner du baume au cœur, Seigneur. Oui, tu peux tout. Oui. Alors, nous voulons proclamer et recevoir et nous libérer ce matin, Seigneur. Alors, viens vraiment, viens nous toucher, viens nous balayer, Saint-Esprit, viens nous montrer, mets le doigt sur nos péchés, mets le doigt là où ça fait mal, mais parce qu'on est prêt, Seigneur, on veut mener le bon combat avec toi. Et ben pour ça, il faut marcher dans la sainteté. Alors, Seigneur, nous te demandons, viens mettre le doigt, viens appuyer là où ça fait mal, mais viens, Seigneur, viens nous le révéler pour qu'on avance avec toi, dans le nom de Jésus, Seigneur.
Oui,
amen,
Seigneur.
Jésus.
Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Deuxième point. Paul règle un problème donc à Éphèse, d'accord? Un problème, un défi. Et puis ensuite, il se laisse guider, il cherche une stratégie d'action pour annoncer la parole de Dieu. On est d'accord, hein? On est sauvé pour servir. On est sauvé pour servir. On a accepté Jésus, voilà, c'est le service qui nous attend. Même s'il faut commencer par le nettoyage, enfin, encore aujourd'hui, je n'ai pas de problème avec le nettoyage, donc ce n'est pas toujours le commencement, mais quelquefois, voilà, pas des choses simples. Et là, Paul cherche une stratégie, une direction. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la synagogue. Ce n'est pas facile hein, pour lui. Hein. Il savait que dans la synagogue, là, de toute manière, on n'accepte pas l'idée que Jésus est venu, que Jésus est le Sauveur, que Jésus a été crucifié, que Jésus est venu nous sauver et que Jésus est venu aussi le sauver. Et puis pourtant, Dieu, il ouvre la porte. Vous voyez les miracles, quelque chose d'extraordinaire. Paul rentre dans la synagogue et annonce le royaume de Dieu. Pendant trois mois. Qu'est-ce qui se passe? Très vite, il rencontre quoi ? L'opposition. Voilà, c'était bon, alors, il prêche l'évangile, alléluia ! Et essaye d'actualiser le culte. Hein. Ah, c'est formidable ! Ah, c'est quelle joie ! Quand j'écoutais Christiane ce matin, je me suis dit, elle ne va pas s'arrêter. Je regardais la montre. Pff, oh là là. Mais sans dire, elle m'a calmé. Alors vous voyez, et tout à coup, voilà, il y a une résistance. Et quelqu'un là-bas, Monsieur X, il s'est dit, mais c'est quoi tout ça ? Là, une certaine dame à gauche, là, elle dit... Il nous parle de Jésus dans une synagogue. Et il y avait des jeunes qui se sont révoltés. Quoi ? Moi, j'ai ma vie, j'ai mes copines, je fume la drogue. Je ne sais pas si on avait, mais bon. Je vis la nuit, je dors le matin. Qu'est-ce que tu nous racontes ? Il y avait une opposition. Alors Paul s'est dit, il faut régler ce problème-là. Je ne peux pas continuer comme ça, on est d'accord ? Ah, c'était pénible, il y a quelqu'un qui se lève et qui est contre le message de Paul. Alors lui, il s'est dit, je veux faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelquefois, il a prié, il a brisé l'opposition. Et dans certaines situations... Ben, il s'est retiré tout simplement pour vivre sa vie, puis vous, continuez. Et puis donc là, Paul, il a pris les disciples, il a gagné pas mal pendant 3 mois. Marie, Jean, Solange, Christiane, Jean-Michel, c'est impossible! On se sépare. Et puis on va louer une salle à l'école. Et puis on va continuer à prêcher l'évangile. Changement de stratégie. Changement de stratégie. Paul ne voulait pas perdre son temps. Mais il voulait être efficace. D'accord ? Donc changement de stratégie. Pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Maintenant, nous. Est-ce que tu as des oppositions ? Combien nous avons des combats où on travaille ? Il y a des oppositions. Combien il y a des empêchements à droite à gauche ? Combien on se déchaîne quelquefois contre nous ? Et il faut changer quelquefois la stratégie d'action. Tout va bien au début. Et puis ensuite, voilà, on veut préserver ce qui est valable, ce qui est donc beau. Et avec ça, on rentre ce qui est positif, on construit, on continue l'œuvre. Alors c'est pourquoi nous allons prier maintenant, quelqu'un d'autre va prier. Et on va prier contre les oppositions, on va briser les oppositions spirituelles au niveau de nos pensées quelquefois. Quelquefois, Dieu nous place dans un mouvement. Dieu nous place, Dieu nous met quelquefois. Moi, si c'était moi, ben je ne serais jamais dans le nord. Je vous ai déjà dit, pour ceux qui m'ont entendu avant, moi, c'est la montagne. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais, ben, Dieu m'a dit, t'es montagne, tu te calmes. Hein, tu vas te réjouir plus tard dans l'éternité de pas mal de choses. Et aujourd'hui, les montagnes, bon, bah, tu auras l'occasion d'aller pour vacances. Tu as des amis dans les montagnes, bah, une fois de temps en temps, tu vas aller là-bas. Voilà, tu vas te réjouir, tu vas monter. Mais pour les mamans, bah, voilà, moi je te veux ici, dans le Nord. Voilà, pour te briser un peu, pour briser ton orgueil. Pardon. Oui, mon orgueil, oui.
Pourquoi pas?
Voilà, donc vous voyez, il y a les oppositions. Quelquefois, on peut se changer, on peut se tromper en prenant une décision dans un domaine. On peut se tromper. Dieu nous veut là et nous voulons aller là. Il y a des oppositions, il y a le combat. Et combien j'en ai vu au niveau de l'Église, combien de gens qui se sont trompés. Très bien, je ne te force pas. Il y a des années, on me téléphone. Oh, Antoine, bon, très bien, je suis là, mais les dégâts sont lourds. Je ne sais pas si je vais pouvoir t'aider. Quelquefois, c'est déjà trop tard. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des oppositions dans notre vie, quelque part. Il y a le Seigneur, la parole, il y a des combats. On va prier pour ça, pour que le Seigneur nous donne une bonne stratégie d'action pour détruire les oppositions autour de nous. Amen. Rita, est-ce que tu veux prier pour nous? Parce que je vois que tu es tellement d'accord avec ça. Allez, viens. On va se lever ensemble. Voilà, ça change un peu aujourd'hui. Alléluia.
Il marche, oui. Seigneur, tous ensemble réunis ici, nous mettons devant toi les soucis de notre cœur. Tu sais que nous voulons choisir les bons chemins, les chemins que tu as préparés pour nous. Alors Seigneur, montre-nous les points où nous nous sommes trompés, les désirs que nous avons et qui viennent de la chair et non de toi. Montre-nous Seigneur aujourd'hui ce que tu attends de nous, où tu nous veux, comment tu nous veux, quelle transformation nous devons entamer dans nos vies ou pas. Seigneur, nous te demandons de nous remplir de ton Saint-Esprit afin qu'il nous éclaire, qu'il enlève toutes les ombres, qu'il nous détache de notre propre moi pour nous tourner vers toi, Seigneur. Oh, Seigneur, nous te demandons la fidélité à la lecture de ta parole, oui. Parce que dans ta parole, nous trouvons les réponses, Seigneur. Guide-nous, conduis-nous vers les versets, les chapitres qui concernent nos problèmes. Parce qu'il y a au fond des réponses partout dans ta parole. Mais ce n'est pas à nous de choisir les paroles qui nous plaisent, Seigneur. Seigneur, je te demande que chacun aujourd'hui puisse recevoir de toi les paroles qui vont éclairer sa vie, éclairer ses choix, ses décisions. Oui, sois béni, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui, pour tout ce que tu vas faire pour cette église en particulier. Nous te demandons de bénir non seulement le pasteur, mais tous les membres de cette église, afin que chacun découvre, oui, ce que tu attends de lui, quel est l'appel que tu as sur lui, et que nous ne soyons pas des gens qui viennent par curiosité ou par intérêt, mais pour te servir, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur.
Amen. Merci, Jésus. Nous avons brisé les oppositions. Vous asseoir. On avance, on construit. D'accord, Paul se sépare de l'opposition. Il va prêcher l'évangile dans une école. Et donc, le verset 10 nous dit, cela durera 2 ans. 2 ans ! Changement de stratégie. On veut être efficace. On s'est séparé de l'opposition. Ça va? Vous êtes avec moi?
Oui.
Et toi, jeune homme, ça va? C'est bon, là? Tu me suis, là, un petit peu? Ouais, bah, Dieu te parle aujourd'hui. Hein. Comment est ton prénom, là? Die. Ah bah Dieu t'aime, hein? Je vois que... Bon, tu me suis encore un peu, ça va? Bon, j'étais jeune comme toi, hein? J'avais pas ta cheveux, là. Ouais. D'accord, on se sépare de l'opposition. On prêche, on fait des choses à l'école. Pendant 2 ans. Et vous voyez ce qui se passe? Finalement, les oppositions, les moments difficiles pour Paul, bon, bah, ça servait aussi pour le bien, parce que là, il prêchait seulement à ceux qui étaient dans la synagogue. Mais là, voilà, la parole était prêchée à tout le monde. Tout le monde. Hein? Pourquoi à tout le monde? Donc le verset 10 nous dit, cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Ben, l'objectif de Paul, c'était quoi ? Communiquer la parole de Dieu, communiquer la vérité, communiquer, parler de celui qui est vivant, qui est notre Dieu, qui est notre Père. Tu es croyant ou non, d'accord ou pas, un jour nous allons devoir nous présenter devant Dieu Tout-Puissant, devant Jésus, le Fils de Dieu, le Roi des Rois. Donc vous voyez, c'est une réalité. Donc, voyez comment Paul avançait avec ses disciples. Grandissait, construisait. Très vite, il a compris que, voilà, il faut être efficace. Et regardez le verset 11, nous dit, « Et Dieu faisait des miracles extra. » Dieu, bon, on va reprendre là, vous voyez, vous avez devant, cela durera deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de qui ? De Paul. Extraordinaire, surnaturel, puissant, quelque chose de formidable. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains. Alors vous voyez la construction de la vie de Paul. Il était rebelle. C'est lui qui persécutait les chrétiens. Il a donné sa vie à Jésus. Il avance, il grandit spirituellement et ensuite il devient efficace. Efficace. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. On va se lever ensemble à nouveau. Et on va dire, Seigneur Jésus, sers-toi de moi, d'une façon ou d'une autre. Je veux un miracle, je veux communiquer un miracle, un changement peut-être. Moi, ça m'arrive souvent par téléphone parce qu'à la suite du site, on nous appelle souvent même de, quelquefois, il n'y a pas longtemps, je vous ai dit, quelqu'un qui habite dans le sud, 1000 kilomètres, qui me téléphone et on a obtenu les victoires parce qu'il voulait se suicider. C'est un monsieur de 78 ans qui voulait se suicider. Donc vous voyez, on voit des miracles, des changements par-ci, par-là. Donc prions maintenant et puis disons, Seigneur, j'aimerais qu'il y ait des choses extraordinaires qui se passent par moi. Brigitte, est-ce que tu peux prier dans ce sens-là ? Seigneur, c'est à toi de nous pour que je sois un canal de choses extraordinaires. Extraordinaires. Les choses qui ne sont pas comme si qu'elles étaient.
Oui. Seigneur, tu nous veux serviteurs pour les autres, Seigneur. Hein, qu'on ait à des moments des attitudes d'humilité aussi vis-à-vis des autres, Seigneur. Sers-toi de nous, sers-toi de moi, Seigneur, pour que je sois un canal de bénédiction, oui. un canal d'amour, un canal d'abondance, Seigneur. Que les autres voient une solution en toi, Seigneur, à travers nous, à travers moi, Seigneur. Merci, merci, Seigneur, pour les miracles dans nos vies, Seigneur. Mais merci pour les miracles dans la vie des gens qui nous entourent, Seigneur. Pour qu'ils voient vraiment une réponse, Seigneur, pour leur vie, Seigneur, et qu'ils aient envie de s'approcher de toi, Seigneur. Hein.
Oui,
merci, Seigneur, de nous donner une nouvelle vie, un nouveau témoignage, Seigneur. Merci, Seigneur. Hein. Gloire à toi, Seigneur. Hein. Merci pour la guérison dans nos vies, comme dans la vie des personnes qui nous entourent, Seigneur. Hein. Dans la vie de nos familles, dans la vie de nos amis, dans la vie des collègues de travail, Seigneur.
Oui.
Merci, Seigneur. Qu'on soit un canal, de bénédiction.
Oui,
et non un canal de choses négatives. Un canal vraiment de bénédiction pour la vie des autres. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Oui, Seigneur, merci. Seigneur, quand on va quitter ce lieu-là, cette salle, sers-toi de nous d'une façon ou d'une autre, comme tu t'es servi de Paul, Seigneur. C'est un enseignement, c'est un exemple, ce sont des repères. Mais pas juste simplement, Seigneur, dire oui, je crois, mais le diable croit aussi. La Bible nous dit que le diable croit aussi que tu existes. Alléluia. Mais il était désobéissant. Alors voici, Seigneur, merci. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Voici l'efficacité d'une vie construite sur le roc Jésus. Le verset 12 nous dit quoi ? Donc oui, on a vu que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et le verset 12 nous dit, on voit qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Vous avez compris? Et les malades et la maladie les quittaient et les esprits malades sortaient. Je me souviens, c'était en Normandie, en Bretagne, plutôt en Bretagne, dans une église il y a déjà quelques années. On avait des moments forts, il y avait des réunions, voilà, toute une mission pendant un week-end. Et il y avait une telle onction, une telle présence de Dieu, les gens ont été touchés, visités, il y avait quelques personnes qui ont été sauvées là. Et puis à la fin d'une intervention, voilà, j'arrête, j'étais épuisé, j'ai tout donné. Et c'est les gens qui s'approchent vers moi et me disent... Est-ce que je peux toucher ta Bible? C'était celle-ci. Là. Elle n'est pas très... Il n'y a rien de spécial. Hein. Pas mal des écritures, des feuilles. C'était comme ça. Est-ce que je peux toucher ma Bible? Ben, moi, j'ai dit, arrêtez. Hein. Arrêtez. Hein. Pas de miss. Bon, vous avez dit. Pas ça. Voilà. Viens nouveau, on vient vers moi. Laisse-nous toucher ta Bible. Je regarde ma Bible. Rien de spécial, un peu de poussière quelquefois là encore. Là, tu vois. Rien de spécial. Mais après, je me suis dit, j'ai eu un petit réflexe, pendant un petit moment, un petit réflexe, je me suis dit, il y a quelque chose là, quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu dans tout ça? Et j'ai laissé faire les choses. Et j'ai dit, bah, tiens ma Bible. Les gens touchaient la Bible, ils tombaient, la puissance de Dieu était sur eux, les gens tombaient parce qu'ils ont touché ma Bible. Et moi j'ai touché ma Bible, j'ai rien ressenti. J'étais comme ce matin, épuisé, j'ai tout donné. Je suis réveillé, d'être un peu enflammé. C'est les autres qui sont enflammés, moi je suis fatigué. Puis après, je reprends ma Bible. Je ne regarde rien qui se passe, je suis debout là, je regarde les autres. Et le pasteur qui était là-bas, il observait, il était dépassé aussi. Il est venu tout doucement comme ça. Vous savez, les pasteurs, quelquefois, des gars durs, hein. Et il touche ma Bible. Boum ! La puissance de Dieu. Oh, je suis resté tout seul debout. Et là, j'ai commencé à chercher. J'ai dit, Seigneur, ça vous donne à réfléchir, je suis sérieux. Attends, je ne rigole pas avec ça. Et puis, à la prochaine fois, on a touché ma Bible, il y a là qui se passe. C'est pas la même chose, mais c'est juste pour vous dire quelquefois Dieu va vous toucher, quelqu'un va vous toucher et vous allez être encouragé. Enfin, les gens, vous allez téléphoner chez quelqu'un, ta parole, c'est là une force, une puissance. Puissance, et la personne sera touchée. Il y avait un mort Un jeune homme à Waterloo, je me souviens, c'était le fils de Pascal. Il avait quel âge quand il est décédé? 12 ans, un gamin de 12 ans qui meurt. Un cancer du sang, le sémi. On priait tous, il est mort, on a prié pour le mort. Je suis allé avec le papa. Prier pour le mort. On était là, puis on a prié pour le mort. Il n'est pas ressuscité. J'ai prié. Avant, on a fait des... Vous savez, il y avait la foi, il y avait l'enthousiasme quelque part. Et on prenait des mouchoirs, puis on mettait même de l'huile. Et j'ai dit aux parents, vous prenez ça et vous mettez sur le corps de ce jeune homme-là. Et puis on verra, on a essayé. On a rien perdu. Moi, je ne me sous-estime pas du tout, je ne me culpabilise pas quand ça marche parce qu'au moins j'ai essayé. Comment tu dis ? Quand ça ne marche pas, je ne me culpabilise pas, mais au moins j'ai essayé. Et quelquefois ça marche. Alors quand vous voyez quelque chose qui se passe avant, on continue. Je dis, ah, Seigneur, vas-y. Moi j'ai vu les choses même. On a touché une veste. Je me souviens, ça c'était en Angleterre, c'était terrible à voir. En Angleterre. Alors, il y a quelqu'un qui enlève sa veste et puis il retourne. C'était un Australien, un grand-père. C'est une convention. Et il a enlevé sa veste, il a retourné sa veste et puis il a juste mis sur quelqu'un. Et la bénédiction de Dieu est descendue sur un homme, mais pas sur les autres. Ah ben, c'était pour lui. Vous comprenez? La méthode de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de méthode. Dieu agit d'une façon ou d'une autre. Mais au moment où tu es disponible, tu construis ta vie sur les rocs, sur Jésus. Jésus, ah ben Dieu, un jour, va se servir de toi d'une façon peut-être différente que là. Mais c'est possible que par téléphone, tu pourras changer la vie de quelqu'un. C'est possible que quelqu'un va toucher ta veste et sera touché lui-même sans que tu saches. Moi, ça m'est arrivé quelquefois quand je rentre chez des gens, voilà, qui ne viennent pas du tout, mais voilà, il y a des combats, il y a des difficultés. Je donne la main, je ne ressens rien du tout, et il y a une bénédiction qui passe, il y a une puissance de Dieu. Les gens sont touchés, les démons se déchaînent, les gens sont quelquefois terrassés. Parce qu'il y a une opposition, vous comprenez, le Saint-Esprit arrive, le feu arrive, alors tout ce qui est ne supporte pas le feu, ah ben ça s'oppose, ça recule, ça doit partir, vous comprenez. Que bien toi et moi, que bien nous sommes des hommes et des femmes privilégiés. Est-ce que vous croyez? Jésus a payé cher pour toi, même si tu penses que, oui, je suis un peu timide. Et moi, je suis un grand timide, ça je peux vous dire. Moi, voilà. Le Seigneur avait du boulot, et encore aujourd'hui, il y a du boulot. Voilà, je suis peut-être timide, je suis peut-être tout petit. Je commence, je n'ai pas un don exceptionnel. Comprenez ce que je veux dire? Mais non, le Seigneur a été chercher David. Il y avait des grosses pointures qui passaient, hein, de ses frères, c'était des gaillards. Hein. Riches, intelligents, des directeurs, des PDG, j'actualise. Hein. Et puis voilà, donc Samuel, le prophète, était là Puis on a présenté le premier fils, il était peut-être PDG. C'est pas lui qui deviendra roi. Il était un homme d'affaires. Non, c'est pas toi. C'est peut-être lui, il était patron de Auchan. On a actué à lui. Hein. Non, c'est pas lui. Hein. Et celui-là, président d'une grande association. Pas lui. Et tout à coup, il y a un berger qui arrive. Pas diplômé. Pas du tout homme d'affaires. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il gardait les moutons. Ah, un paysan. Il arrive là. Et Dieu dit par Samuel, c'est lui, David, qui deviendra quoi? Le roi d'Israël. Oh! Alléluia! Il y a l'espoir pour nous tous, amen! Mais il nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Nous sommes héritiers, pas de n'importe qui, mais de Jésus, le Fils de Dieu. Voilà, on va se lever ensemble, on va conclure ce culte-là par la prière. Seigneur Jésus, voilà, levons les mains vers le Seigneur, vers le ciel, pour que ça soit juste un geste pour dire, oui, Seigneur, je suis là. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'aimerais te dire merci parce que je suis quelqu'un important. Je n'étais rien du tout, mais tu as fait de moi ton fils. Oh là là, fils d'un roi, fils ou une fille de Dieu Tout-Puissant. Je suis un héritier, pas de n'importe quoi, pas juste d'une petite maison, pas de 10 maisons, pas d'un million de dirhams, mais je suis héritier de toute une éternité, oh, qui dépasse toutes les richesses sur cette monde, sur ce monde-là. Oh Dieu, merci, au nom de Jésus, pour ta miséricorde, pour ta grâce, pour ta bénédiction. Merci Jésus. Alléluia, tu es vivant. Y a-t-il quelqu'un parmi nous, pendant que Sandy va jouer, quelqu'un qui aimerait que...